Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Luc Broussy.
Bonjour Patrick Cohen.
Éditeur du mensuel des maisons de retraite, vous avez créé le centre de réflexion Matière Grise. Voilà des années que vous travaillez sur ces sujets. Vous avez connu la catastrophe de 2003, cette canicule qui avait fait 19 000 morts. On avait dit plus jamais, vous vous souvenez ?
Je me souviens très bien effectivement d'une crise qui avait effectivement fait de plus de 19 000 morts, mais dans une période beaucoup plus concentrée, puisque c'était l'espace quasiment de 15 jours que le drame s'était noué.
Quelle est la situation aujourd'hui dans les EHPAD ? Est-ce que les personnels ont maintenant les moyens de trouver un bon équilibre entre l'isolement sanitaire et les contacts avec les familles ?
Écoutez, d'abord, moi, je veux dire, on y reviendra, mais à quel point les EHPAD, d'abord, ont bien réagi face à ce drame. On oublie toujours que ce sont souvent les directeurs, les directrices d'établissements qui, eux-mêmes, ont décidé, bien avant que ce soit le cas pour l'ensemble des Français, le confinement. C'était une mesure difficile à prendre, mais en même temps, on le voit bien aujourd'hui, une mesure indispensable et courageuse. On a vu aussi ces exemples de personnel qui avaient décidé de se confiner eux-mêmes dans les établissements pour limiter le risque de propagation du virus. Donc, de dire d'abord à quel point, parmi les personnels que l'on applaudit à 20h, il y a aussi les personnels des EHPAD qui parfois sont moins considérés que les blouses blanches des hôpitaux. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile pourquoi ? Parce que les EHPAD ont dû gérer toute cette crise avec à chaque fois un décalage dans les équipements. On a longtemps attendu des masques. Effectivement, je le confirme, aujourd'hui la situation de ce point de vue-là est beaucoup moins tendue qu'il y a un mois et demi. Il a fallu ensuite, et c'est le cas aujourd'hui, attendre les tests. On explique qu'il faut tester tout le monde, sauf que les EHPAD n'ont pas encore les tests. Donc, ils n'ont cessé de courir finalement derrière un rythme dont ils n'étaient pas eux-mêmes le maître. Quant au déconfinement progressif qui a eu lieu cette semaine, je crois que d'abord les établissements le souhaitaient, et c'était les premiers à voir la souffrance d'un certain nombre de résidents, de ceux qui ont des familles, comme je le rappelle quand même, de ceux qui n'ont pas de famille. Et ce déconfinement, par contre, a été peut-être annoncé de manière un peu précipitée par le ministre, puisqu'il a fallu quand même tout au long de la semaine, progressivement, mettre en place les mesures sanitaires, les mesures de prévention, qui permettent, une fois de plus, aux directeurs d'établissement de pouvoir recevoir les familles en toute sécurité.
Des familles qui, parfois, ont saisi la justice, qui disent avoir été tenus dans l'ignorance de la santé de leurs proches décédés, des dizaines de plaintes ont été déposées. Vous les comprenez, Luc Broussy ?
Non, pas du tout. Enfin, vous savez, Nietzsche disait je souffre, donc quelqu'un doit être responsable. Et donc, comment en vouloir à des familles qui souffrent ? Qui souffrent doublement, d'ailleurs, parce que elles souffrent de le décès d'un parent. Et puis elle souffre d'avoir été séparée de lui pendant plusieurs semaines. Vous connaissez, enfin je m'excuse d'être dans le détail un peu macabre, mais il faut que tout le monde le comprenne bien. Quand une personne en EHPAD décède du Covid, l'aspect sanitaire nécessite, commande que la personne soit immédiatement mise dans une housse et immédiatement dans un cercueil. Alors moi je comprends, la famille qui pendant 4-5 semaines a été séparée de son parent et qui ne peut plus le voir, qu'il ne le verra jamais une dernière fois. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé quand il y a eu parfois de très nombreux morts dans certains établissements et quand, par ailleurs, on a dû respecter les consignes que je viens de rappeler. Mais, comment dire, être dans une situation où les EHPAD ont finalement été responsables pour tout le monde, parce qu'il faut quand même rappeler une évidence que parfois on oublie. Les EHPAD, aujourd'hui, ce n'est pas la maison de retraite où on joue tranquillement au bridge en attendant le thé à 5 heures. Aujourd'hui, les EHPAD sont des lieux qui accueillent les personnes en fin de vie, des personnes qui ne peuvent plus rester chez elles. Donc, l'EHPAD d'aujourd'hui, c'est des lieux où, effectivement, nous le savions, une concentration de personnes qui étaient particulièrement sensibles au Covid. C'est le virus qui en veut aux personnes âgées. C'est pas les EHPAD ni la France.
Qu'est-ce que cette crise vous a appris sur nos rapports avec les plus vieux, sur le regard des Français, leur attachement ou leur désintérêt à l'égard des plus âgés?
Mais Vous faisiez tout à l'heure souligner que j'avais déjà, dans les mêmes à peu près responsabilités, vécu la canicule de 2003. On s'était rendu compte au moment de 2003 qu'à la fois on ne pensait pas suffisamment aux personnes âgées en temps normal, mais que lors de la crise, il y avait eu une formidable élan de solidarité, notamment à l'intérieur des familles. Moi je crois que, là encore, la crise révèle que la France aime ses vieux. On a entendu parler pendant cette crise, matin, midi et soir, de la situation des EHPAD. En bien, en mal, peu importe, on en a parlé. On peut pas dire qu'il y a eu une chape de plomb. Moi, quand je vois des titres de journaux, « Tragédie à huis clos »,« L'Omerta », mais enfin, on en a parlé tout le temps. On a vu des jeunes se mobiliser dans le cadre des différents dispositifs pour aller soutenir des personnes âgées. Mon ami Jérôme Gadge a été nommé par le ministre sur une mission ponctuelle pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, notamment à domicile, et afin de mobiliser l'ensemble des élus locaux autour de cet objectif. Donc on peut tout dire de cette crise, mais certainement pas que nous avons oublié les personnes âgées. Et je pense qu'au contraire, ça a révélé quelque chose de la société française. C'est que elle a une forme d'empathie qui s'est montrée, je crois, assez évidente pendant cette crise envers les seniors.
Oui, mais avec une concentration particulière qui est même spécifique à notre pays. En France, c'est environ 20% des plus de 85 ans qui résident en EHPAD. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe, Luc Broussy. Et la question se pose régulièrement s'il n'y a pas moyen de faire autrement que de concentrer les plus âgés et les plus fragiles dans ces établissements.
Mais vous savez, cette réflexion-là, les EHPAD l'ont eux-mêmes. On nous promet depuis maintenant environ 2 ans une loi grand âge, et on a préféré d'ailleurs, de manière étonnante, sortir une loi sur les retraites que personne ne voulait, qui a été privilégiée à une loi sur le grand âge que tout le monde voulait. Bon, j'espère que celle-ci, en tout cas, sera la priorité des priorités au sortir de cette crise. Mais je vous livre un petit souvenir. Il y a 6 mois, je déjeunais avec la ministre danoise des personnes âgées. Ils ont pris, il y a maintenant une quinzaine d'années, une loi stoppant la construction de maisons de retraite. Elle était la première à me dire que 10 ans après, elle en subissait aussi une partie des conséquences. Parce que quand une société n'a pas les moyens de prendre en charge à domicile l'ensemble des personnes, quelle que soit leur fragilité, eh bien à un moment donné, oui, l'EHPAD, qui est critiqué aujourd'hui parce que il concentre un nombre de décès dû à la population qui l'héberge, eh bien l'EHPAD a une utilité sociale. Qu'il fasse, qu'il évolue, c'est une nécessité. On va arriver à partir de 2030 à une génération qui est la génération des baby-boomers, hein, la génération qui est née après la Seconde Guerre mondiale, qui aura l'âge de 85 ans. Eh bien, cette génération Club Med, cette génération mai 68, elle aura évidemment envie d'un autre modèle. Eh bien, on va le faire évoluer. Mais c'est pas le moment aujourd'hui de faire le procès de ceux qui ont pour métier, par délégation de la société en général et des familles en particulier, de prendre en charge les plus fragiles.
Le procès, non, mais une loi de programmation, oui. En tout cas, on a bien compris que vous l'espérez, que ce plan vieillissement qui était en discussion il y a un an et puis qui devait aboutir cet hiver, ce sera encore pour plus tard. C'est ça, Luc Broussy. Hein.
Ah, j'espère que c'est pas pour plus tard, justement. Je pense qu'il faut d'abord, dès le mois de juin-juillet, un plan d'urgence. Parce que il faut bien comprendre que la crise va durer dans les EHPAD. Hein, le 11 mai, les EHPAD, la situation ne change pas. Donc pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, on sera dans une situation de toute façon tendue. Et donc on va pas attendre la Saint-Glinglin pour améliorer les moyens, pour mieux rémunérer les personnels qu'on applaudit à 20h, mais qui demanderont dans les prochains mois quand même à être valorisés. Et puis, il faudra, au-delà de ce plan d'urgence, oui, repenser la place du vieillissement dans notre société. Imaginez les conséquences de cette révolution démographique qui fait que, à partir de 2030, il y aura une explosion du nombre de plus de 85 ans dans notre pays. Soit on décide que ce sera une catastrophe, soit on décide que c'est une opportunité. Si on veut que ce soit une opportunité, il faut la préparer dès maintenant.
Merci Luc Broussy, vous éditez, je le rappelle, le mensuel des maisons de retraite et dirigez le cercle de réflexion Matière Grise. Merci à vous.
Merci.